Nous vous invitons à écouter le 21e épisode de notre feuilleton Papillon de peine de Maurice Thibert. Au contact de Jérémy, Roland a mûri. Sa fréquentation de la pauvreté et des êtres du quartier des Trois Misères a conduit à l'essentiel, aimer. Ainsi, libéré de ses peurs, Roland affronte la vie.
Recommence. Tu t'es trompé. Tu ne peux pas faire les additions si tu ne tiens pas ton esprit en laisse.
Les pensées d'Ali, le roseau, rôdaient dans le pays des fantaisies, où, sous un climat attendri, les rêves bâtissent des sites magnifiques, et où les saisons confondues caressent un bonheur non éclos. Ses yeux quittaient sans cesse un cahier d'écolier pour courir, par-delà la fenêtre, au séjour de l'imaginaire. Le temps était maigre, nous étions vendredi. Roland avait comme un pressentiment, une sorte de nausée vagabonde déambulait tour à tour de sa tête à son ventre et réciproquement. Un malaise sans domicile fixe, mal aimé, il était à jeun. C'était le vendredi, pas n'importe lequel, le saint, le jour du dernier cri et de la déchirure, une terre d'abstinence. L'anniversaire d'abstention est d'un coquerico. Quelqu'un passait la herse et brisait les nuages. Le ciel était une lande confuse d'espoir et d'affres mêlées. Depuis des jours, Jérémy ne quittait plus sa couche. Dès que la maladie s'était déclarée, il n'avait cessé de prendre le pas sur le père. Et désormais unis, ils allaient bras dessus, bras dessous. Ces épousailles auxquelles rien ne l'avait préparé n'accordaient à Jérémy que peu de répit. Quelques sursauts de liberté et un sursis. Ali était en vacances. Pour être proche du père, Roland avait demandé au roseau de venir viser son calcul dans la baraque des prêtres. Par manque de familiarité et de commerce quotidien avec les chiffres, Roland avait perdu toute compétence mathématique. Ali et lui pratiquaient surtout l'arithmétique sur des espoirs de partage et d'imaginaires opérations. Dans la tête de Roland, les problèmes se posaient en ces termes.
Un jeune homme riche vend tout ce qu'il possède et le donne. Un homme trouve une perle de grand prix, il vend son champ et achète la perle. Que leur reste-t-il ?
Un jeu.
Un jeu ?
Oui, comme à l'école. Sébastien me donne des billes et gagne mon amitié.
Ali n'avait pas répondu. Roland avait rêvé. Le roseau était sujet à des fluctuations aux origines indéterminées. Il additionnait les distractions. Roland n'était plus guère attentif que lui. Ce jour était en croix et ses heures suppliciées. C'était un jour où, de sommet en sommet, se répercutait la soif d'un dieu et la mort d'un homme. Un jour où, d'écho en écho, circulait la rupture de 3 heures. Tout cela concourait-il à la désolation qui imprégnait les gens? Cet anniversaire avait été livré à une anxiété stérile, héritée d'une culpabilité collective, 2 fois millénaire. C'était un jour difforme, contrefait, dénué d'air et de fraîcheur. Une atmosphère sépulcrale le parcourait tout du long. Une odeur d'abattoir, de sang chaud et d'agneau égorgé.
Ça fait 42. Tu t'es encore trompé. À quoi penses-tu ?
Ali ne regarda pas Roland. Ses yeux laissèrent à l'abandon sa méditation et, glissant sur la vitre, semblait y cueillir des gouttes de pluie.
Réponds-moi, Ali. À quoi penses-tu ?
À regret, Ali mit en panne le voilier de ses rêves et ses yeux noirs imposèrent à Roland son désappointement.
Je faisais avec les perles d'eau un collier pour la libellule pour qu'elle soit belle comme avant.
Belle ? Elle est toujours belle.
Pas comme avant. Elle a de la peine sur les joues.
Des taches. Pimpre m'a dit que c'est l'effort qu'elle fait pour arrondir son ventre qui lui fait son visage de peine.
Depuis le retour de montagne, Pimpre avait repris ses activités nocturnes dans la rue des Libertés à Catastrophe. Roland en avait éprouvé une sorte de déchirement, comme si tous les instants de paix et de bonheur qu'ils avaient engrangés allaient être dilapidés. Il avait été tenté par la première pierre, il l'avait soupesée. Oh, elle avait le poids de l'erreur. Une tare.
Roland.
Oui ?
La libellule a le ventre rond comme la terre. Je l'ai vue quand elle se lavait. Elle était belle.
Par geste, Ali tentait de définir la rondeur et la grosseur du ventre de Pimpre. Il appelait à son secours ses mains quand, boiteux, les mots arrivaient en désordre. Il était contraint de leur mettre des béquilles pour en soutenir le sens. C'est manuellement le plus souvent que le roseau exprimait ses pensées. Pimpre, en effet, était grosse, non pas comme une mère, mais comme ces dômes où ces diffient sans cesse une présence et qui témoignent de l'éternelle génération. Depuis des mois, l'univers intérieur de Pimpre s'était agrandi. Elle avait été visitée. Au quartier, l'attention de tous était fixée sur ce monde nouveau dont on devinait l'aube prochaine. Maria avait repris ses aiguilles et tricoté de la layette avec beaucoup de goût. Elle ne joignait plus les couleurs et leur agressivité glanées dans les poubelles ou les décharges publiques. Elle buvait moins et ainsi, sou par sou, achetait des pelotes de laine. Fado, dans ses brocantes, avait découvert un grand panier d'osier comme première embarcation pour le bébé de Pimpre. Le soir, sur le pas de sa porte, alors que la libellule préparait le repas pour Ali et son père, Ahmed fredonnait des chansons de vent et de sable, comme l'exigeait la coutume en son pays. C'était la contribution d'Ahmed à l'éclosion future. à laquelle chacun et tous donnaient paternité multiple. Aux trois misères, il y avait frénésie d'imagination et de débordement d'initiative pour accueillir l'enfant. C'était décidé. Et Jérémie en avait formulé le souhait, la vie valait bien une fête. Jérémie cependant faiblissait. La maladie ne lui laissait que quelques rares éclaircies. Le reste du temps, les mots désarçonnés s'embourbaient dans des équivoques et des sables mouvants. Ces phrases transportaient beaucoup d'ellipses. Ce que Roland percevait au mieux sans obstacle étaient ces gémissements francs, indépendants, que leur naïveté rendait infatigables. Parfois des mots d'ételets entamaient une chevauchée sauvage quand le mal fichait ses pointes acérées dans le corps de Jérémie. Quand un apaisement nomade établissait le camp, les mots fleurs fanées flottaient, dérivaient sans conscience et sans lien sur le silence. Leur sens estompé n'avait que des contours et leur paysage pour toute lumière que celle des éclipses. Esselés et pourtant embrasés, ces mots semblaient alors consommer des significations et des peines perdues. Parfois, ils faisaient du trapèze et, sur l'air, au-dessous, Roland tentait de les recueillir avant que, désarticulés, ils ne deviennent exsangues. Jérémie disait...
Dieu, mort, cascade, rire, salut, amour, cime.
Ces mots étaient nus, étaient beaux, mais Roland ignorait pour quelle fête. Il ne trouvait de saveur que par les souvenirs de nos conversations passées. Quelquefois, quand Jérémie pouvait accumuler les pauses et que, de ses songes, la porte était brisée, Roland lui prenait la main et silencieusement, pour un instant, il partageait sur sa table les miettes de son quotidien. Immigrant, il avait part pour un bout à sa douleur indigène, étrangère. Ses peurs amaigries ne sortaient plus et attendaient la mort. Son cocher avait trouvé à se louer ailleurs pour une autre psychose. La vie avait une autre teinte. Jérémie avait, au jour le jour, nivelé ses déboires, déchu, terni, ramené à de raisonnables proportions. Il perdait tout prestige. Sous son regard, ses craintes sombraient dans l'infortune et les brèves apparitions qu'elle tentait les laissaient pantelantes, inassouvies. Roland vivait désormais avec une tranquille assurance. La maladie de Jérémie, la naissance prochaine du petit de Pimpre et l'avenir. La vie aux trois misères était certes rude, mais cette rudesse ne relevait que de conditions matérielles. On y formait malgré tout une famille unie et liée les uns aux autres par des sentiments sans phare. Tous regorgeaient d'une espérance active.
Depuis quelques minutes, le roseau et Roland avaient délaissé leur occupation. Le regard d'Ali allait de la fenêtre à son brouillon. Il griffonnait un dessin. Debout, Roland lorgnait au dehors. Oh, le quartier semblait respecter une trêve. La mare était vide. Aux abords des Trois Misères, quelques roulottes et des gens du voyage s'entêtaient à maintenir un feu. La pluie faisait le maximum.
As-tu achevé le colis de la libellule ?
Oui, mais en plus, elle a des perles blanches. J'aurais aimé y ajouter quelques gouttes dorées.
Je crains qu'il n'y ait pas de soleil aujourd'hui pour dorer tes perles.
Ali rejoignit la cuisine. Roland entra dans la chambre de Jérémy. Il était couché du côté et de sa bouche s'échappait un filet de sang.
Ali, viens vite. Cours chercher Fado. Non, ne rentre pas. Jérémy va plus mal. Dépêche-toi. Emmène Fado.
Roland épongea avec une serviette le sang de la bouche de Jérémy et au bord de la couche, ses lèvres étaient livides. Il semblait dormir. Roland lui prit le pouls. Son cœur battait, mais son balancier hésitait par moments, repartait, traînait en route, comme un mauvais élève avait perdu le compte. La vie balbutiait simplement. La porte du couloir s'ouvrit et Fado surgit sur le pas de la chambre.
Qu'y a-t-il encore ?
Je crois que Jérémy vient de prendre l'envers de la pente.
Fado avait fait suivre ses tics et leur collision. Il quitta son air d'hilarité coutumière et le troqua contre une gravité qu'il n'avait encore jamais sortie de sa garde-robe.
Tu sais où habite le docteur, notre ami ? Il faut qu'il vienne, rapidement. Tu lui dis que Jérémy descend vers la falaise. Il viendra sûrement.